Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
La traite des personnes dans la vaste région incontrôlée du Sahel, c'est le thème de la première partie de ce magazine que Marie-Ange et moi présentons pour la dernière fois. Bonjour Marie-Ange Pierron.
Bonjour Fréjus.
Avec vous tout à l'heure, Afropresse, et de quoi parlerons-nous ?
Alors, il est toujours question d'un géant de l'Afrique, le Nigeria. Question également d'un autre géant, celui du nucléaire français Areva et de l'accord qu'il a conclu avec le Niger.
Nous vous retrouvons dans quelques 5 minutes. Merci beaucoup Marie-Ange. Auditeurs à l'écoute, bienvenue dans ce magazine. Ouais, presque pas un mois où ne se déroule un drame avec des migrants clandestins en route vers l'Europe. Début mai, une quarantaine de Nigérians sont morts de soif en plein désert du Sahara, abandonnés par les passeurs. La succession des drames du genre pose la question de l'inefficacité de la lutte contre ce trafic. L'Algérie, puissance militaire régionale, est souvent appelée à jouer son rôle, mais aucun pays ne peut à lui seul résoudre le problème. Plus de détails sur ce sujet avec Tariq Draoui, notre correspondant en Algérie.
16 mai 2014, une quarantaine de migrants nigérians en route vers l'Algérie sont retrouvés morts en plein désert. Ils auraient succombé à la soif, abandonnés par les passeurs. Des voix s'élèvent pour réclamer une lutte plus efficace contre cette nouvelle traite. Mais le problème n'est pas simple. Pour Saïd Jaffar, analyste, lutter contre les réseaux de passeurs suppose une implication des États en place. Or, c'est bien la déficience de ces États qui rend ce trafic possible.
Nous avons une situation où les États sont déficients. Leur capacité à intégrer la population dans un système normal pose de sérieux problèmes et crée en réalité une situation que d'autres appellent zone grise, où on peut trouver aussi bien du trabendisme, de la traite des esclaves.
Pire, le Sahel est désormais infesté de terroristes. Ces derniers multiplient leur réseau et avec les passeurs pourraient bien avoir passé un accord. Amin Hajjal, spécialiste des questions du Sahel.
Vous avez là des cohortes humaines qui traversent des territoires vastes comme la moitié de l'Europe. Et ils ne peuvent pas être sécurisés sans passer au préalable par un accord avec les groupes terroristes. Maintenant, tout dépend de quel accord s'agit-il. Mais moi, je pense que tout est lié à l'argent. Chaque passeur paye entre 2500 et 3000 euros pour avoir une place.
Si des groupes terroristes s'installent, ils ont tissé des relations avec les gens du CRU, que ce soit la population, que ce soit les trafiquants. Du moment que vous avez, par exemple, un groupe terroriste qui s'installe, il y a nécessairement des connexions pour qu'il puisse durer.
Durer dans la région et entretenir son commerce, passeurs et terroristes partagent bien des objectifs ensemble. Ils contrôlent de vastes territoires dans cette région et pour eux, le seul danger peut venir du nord. Au nord, l'Algérie qui aurait dû s'impliquer plus.
L'Algérie est directement concernée du point de vue sécuritaire, mais elle aurait pu travailler un peu plus fortement en direction de ces pays pour stabiliser, aider dans les économies.
Si pour cette analyse, le rôle de l'Algérie ne peut s'étendre à celui que les Européens veulent lui faire endosser. Pour Amin Hajjal, au contraire, l'Algérie aura tout à gagner dans une stratégie intégrée.
Si on prend en compte les flux migratoires, entraîne de l'insécurité pour toute la région et non pas seulement pour l'Europe. L'Algérie aura tout intérêt à coopérer avec l'Europe. Mais l'Algérie aura besoin à la fois d'assistance technique et de capitaux. Il ne s'agit pas de jouer le gendarme pour le compte de l'Europe. Il est question ici de développer une stratégie commune en prenant en compte l'aspect humain du drame.
Quand l'Europe veut ralentir les flux migratoires, cela s'entend de ce côté de la Méditerranée comme une politique de fermeture. Bruxelles est accusée de monter une forteresse en faisant des Africains des laissés pour compte. Saïd Jaffar pense que la démarche actuelle est à revoir.
Les Européens ont une vision purement sécuritaire des choses. C'est clair qu'ils voudraient que les pays concernés servent de digue, mais l'effort pour stabiliser les populations dans leur propre pays d'origine n'est pas réellement fait. Donc c'est une démarche inversé.
Aider les populations, mettre plus d'argent et d'énergie, quitte à mettre l'exigence démocratique en préalable. Amin Hajjal.
Les Européens vous diront que toute aide ne rime à rien avec des pouvoirs corrompus et ils ont raison. Mais quand on voit la réalité, l'Europe ne fait rien pour insister sur la bonne gouvernance. À mon avis, elle devrait justement obliger les pouvoirs en place à plus de rigueur dans la gestion de leurs affaires.
Les migrants du Sahel restent les premières victimes d'enjeux qui les dépassent et d'événements sur lesquels ils n'ont aucune emprise. Pendant qu'on disserte ailleurs sur les moyens à lutter contre cette nouvelle traite, ils continuent de tenter des traversées mortelles à la recherche d'une meilleure vie. Les 46 morts du 16 mai rappellent ceux du 28 octobre 2013. 35 migrants étaient morts dans les mêmes conditions. Tariq Draoui, à Alger, pour la Deutsche Welle.
Et ces derniers jours, j'ajoute, des centaines de migrants clandestins ont pris d'assaut les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Suite d'Afrique 7 jours, et c'est maintenant Afropresse avec vous Marie-Ange Pierron. Cette semaine, le Nigeria retient une fois de plus l'intérêt des journaux allemands, vous l'avez dit, mais on va commencer par le Niger. Un accord a finalement été conclu entre le gouvernement nigérien et la société française Areva pour l'exploitation de l'uranium, et cela inspire un commentaire assez nuancé.
Oui, dit August Zeitung, estime que le gouvernement nigérien se réjouit à juste titre du nouveau contrat avec Areva, le géant français du nucléaire. Le gouvernement du pays le plus pauvre du monde a mis à genoux un géant public de l'atome. C'est une victoire du nouveau nationalisme africain des ressources qui tente de couper l'exploitation minière en Afrique de ses racines coloniales. Mais souligne le journal, sans doute n'est-ce pas la peur de la concurrence chinoise qui a poussé en priorité la France à céder au Niger. C'est bien plutôt la peur des islamistes armés dans la zone sahélo-saharienne qui est actuellement le facteur dominant de la politique française dans la région. Et reste à voir, poursuit le journal, ce qu'apporte le nouvel accord. Des recettes fiscales plus élevées, de nouvelles routes dans le désert, des postes de direction pour des Nigériens, tout cela n'est pas automatiquement avantageux pour les 17 millions de Nigériens. La société civile, qui s'est mobilisée avec succès pour un meilleur contrat, doit rester vigilante. La Neue Zürcher Zeitung à Zurich, donc en Suisse, relève que l'uranium représente 70% des exportations du Niger. Areva, le troisième groupe nucléaire au monde, tire du Niger 35% de son uranium. L'entreprise exploite deux mines près d'Arlit, à 900 km au nord-est de Niamey. Pour encourager prétendument des investissements dans cette région, Areva a bénéficié jusqu'à présent de généreux allègements fiscaux. Le nouvel accord met fin à ses privilèges. Le même journal publie sur la même page un article sur un autre accord minier, celui conclu par le gouvernement guinéen avec le groupe minier anglo-australien Rio Tinto. Il concerne l'exploitation du plus grand gisement de fer encore intact au monde. Il renfermerait 100 millions de tonnes de fer et son exploitation devrait multiplier par deux le produit national brut de la Guinée. Mais l'accord, précise le journal, doit encore être approuvé par le Parlement guinéen.
La presse, Marie-Ange, continue aussi de s'intéresser au Nigeria. Les lycéennes enlevées à la mi-avril par Boko Haram sont toujours captives. L'armée du Nigeria a dit savoir où elles se trouvent, mais elle exclut toute opération de libération par la force.
Cette attitude, note la Süddeutsche Zeitung, a indigné les familles des jeunes filles. Mais le fait que l'armée nigériane hésite à libérer les otages par la force s'appuie sur une froide évaluation des options, car même si elle a pu vraiment localiser toutes les lycéennes, et tout indique qu'elles ont été séparées en petits groupes et dispersées sur une vaste superficie, il est à craindre qu'elles soient tuées dès le premier signe d'une libération violente. C'est de cette façon que Boko Haram a agi dans le cas de l'otage britannique Chris McManus en mars 2012. La tentative de libération anglo-nigérienne a tourné à la débâcle. Die Welt relève que face à l'incapacité des forces de sécurité, des milices se sont formées. Pour les millions d'habitants du nord du Nigeria qui vivent depuis 2009 dans la peur permanente sans que quiconque leur vienne en aide, l'enlèvement des jeunes filles a été une atrocité de trop. À Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, 30 000 civils se sont regroupés pour former une armée de l'ombre. Ils n'ont, précise Die Welt, aucune formation militaire et combattent avec des armes d'un autre temps, parfois même avec seulement des flèches et des arcs. Et pourtant, ils ont réussi à chasser Boko Haram de Maïdougouri, car, comme l'explique le chef de cette Civil Joint Task Force, Abaji Kali, nous les connaissons, l'armée régulière vient de partout, ils sont mieux équipés que nous, mais ils ne connaissent pas la région et ne parlent pas notre langue.
Et puis après l'investiture de Jacob Zuma pour un second mandat présidentiel en Afrique du Sud, un nouveau gouvernement a été nommé. Un quotidien allemand le passe à la loupe.
Il s'agit, Fréjus, en l'occurrence de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui retient tout d'abord que, pour la première fois, l'Afrique du Sud a un ministre des Finances noir. 20 ans après la fin de la ségrégation raciale, la pression était grande au sein de l'ANC pour confier ce ministère clé à un représentant du principal groupe de population. Nlanla Néné, 55 ans, était jusqu'à présent vice-ministre des Finances. Beaucoup d'espoir, relève le journal, sont également placés dans l'ancien syndicaliste devenu l'un des hommes d'affaires les plus riches du pays, Cyril Ramaphosa, qui fait son retour en politique. Il a été nommé vice-président. On attend de lui la mise en œuvre du plan national de développement avec l'aide duquel le gouvernement veut combattre le chômage et la pauvreté. Autre nomination importante, celle d'un nouveau ministre des Mines. La femme qui occupait ce poste jusqu'à présent, note le journal, n'est pratiquement pas intervenue dans la grève observée depuis 4 mois dans les mines de platine. Elle passe au ministère de la Condition féminine. Son successeur, Ngoako Ramalthodi, est avocat. C'est aussi un vétéran de l'ANC.
Vétéran, le mot est lâché, c'est bien le vétéran que vous êtes dans ce métier, Marie-Ange Pierron, que je voudrais remercier pour tous les moments partagés avec vous sur Afrique 7 jours. Je rappelle que vous partez maintenant à la retraite et nous refermons ce magazine ensemble avec quelqu'un que vous aimez bien, Marie-Ange, et qui a longtemps co-présenté ce magazine avec vous. C'est Mahamadou Koné qui est au téléphone de Bamako. Mahamadou, bonjour.
Bonjour Fréjus, bonjour Ange.
Oui, bonjour Mahamadou.
Ça fait un grand plaisir pour moi.
Oui, alors c'est le dernier Afrique 7 jours, Mahamadou. On l'a fait longtemps ensemble. Alors voilà, on va passer la main maintenant à d'autres plus jeunes qui vont prendre la relève.
Moi, c'est avec une grande émotion que je place ces quelques mots. C'est Ange qui m'a fait venir aussi dans Afrique 7 jours. Donc on a travaillé ensemble dans cette émission. Cela fait 14 ans que j'ai connu Ange. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec Ange. Et Ange qui est devenu pour moi plus qu'une collègue, une amie.
Merci Mahamadou. Et vous allez, attention, hein, maintenant que je suis à la retraite, vous allez peut-être me voir débarquer un jour ou l'autre en Afrique.
On sera très heureux de t'accueillir à Bamako. Et Ange, malgré les charges qu'elle avait au sein de la rédaction, c'est elle qui dirigeait la rédaction, malgré tout ça, elle est restée elle-même. Elle faisait les mêmes interviews que les autres, elle faisait des émissions, elle faisait la coordination de la rédaction. Et c'est elle qui vient avant tout le monde et qui part après tout le monde. Mon amie, Ange. Chapeau.
Voilà. Ok, et merci.
Je dois dire que cela a continué. Donc, après votre départ, Mahamadou, merci beaucoup. Alors, c'est désormais Carole Assillon et Philippe Poyan qui présenteront ce magazine Afrique 7 jours. Et je vous laisse maintenant, Marie-Ange Pierron, conclure le magazine.
Eh bien, conclure. Voilà. Merci d'abord. Merci à tous ceux qui nous écoutent en Afrique et ailleurs, parce que sans nos auditeurs, eh bien, on ne serait rien.